Merci Tiffaine et bon week-end. Deux invités et des lecteurs, Jean-Claude Silberstein se fait chasseur de livres et enquêteur-éditeur, tandis que Maxime Decoux traque dans un essai critique le goût de l'imposture et le désir d'enquête qui en découle.
La Compagnie des Poètes, par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h, Jean-Claude Silberstein, Maxime Decoux, bonjour, bienvenue
bonjour.
À
bonjour.
Tous les deux. Un chasseur donc et un enquêteur. Maxime Decoux, vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille et signé un drôle et stimulant objet aux éditions de Minuit, un essai qui prend l'imposture et ses pouvoirs éventuellement transgressifs comme objet et outil critique. Au programme, le roman policier comme modèle ou contre-modèle littéraire et comme jeu, et avec lui, la fabrique d'un lecteur enquêteur, le coupable n'étant pas forcément celui qu'on croit. Polar, ça tombe bien, Jean-Claude Silberstein, vous leur avez consacré nombre d'articles, notamment dans les pages du Nouvel Observateur avant de les éditer, je pense à la collection Chute Libre, mais aussi, et évidemment, à Grand Détective hein, pour les éditions 10-18, avant de vous faire, sur le tard, avocat mention droit de la propriété littéraire et artistique, et avant d'imaginer pas moins d'une quinzaine de collections, parmi lesquelles Domaine étranger, toujours pour 10-18, mais aussi Texto ou Pavillon, ou plus fraîchement Le goût des idées, aux belles lettres, une collectionnite hein, que vous racontez dans Souvenir d'un chasseur de trésors littéraires, qui paraît aux éditions Alary, un copieux volume, recueil de petits faits vrais, dites-vous, qui s'ouvre sur l'enfant de 3 ans que vous étiez en 1941, enfant juif du 11e arrondissement, né de parents venus de Pologne, enfant caché mais enfant heureux, lecteur très vite obsessionnel, hein, de Bécassine à Koestler, de Dumas, Stendhal, Miller, Sandra, Philip Roth à Jim Harrison, puis étudiant perplexe et encombré, on y reviendra, une tentative côté médecine, et puis l'édition qui vous cueille au milieu des années 60, un recueil qui s'achève, on ne se refait pas, par deux listes, hein, deux collections d'une certaine façon, 50 écrivains étrangers suivis de 50 jazzmen en écho à une première vie de critique de jazz. John Coltrane, All or Nothing at All, extrait de l'album Ballads, paru sous le label Impulse en 62. C'est à peu près le moment où vous le rencontrez, Jean-Claude Silberstein, le temps d'une interview et d'un article hein, qui fera date, titré Coltrane, The Modern Faust, hein, en anglais, dans sa version anglaise, signé d'Argent-Pierre, une traduction littérale de votre nom, Silberstein. Qu'est-ce qui en ferait un Faust moderne ?
Une modernité destructrice ou déconstructrice. Les premiers disques de Coltrane sont c'est du bon saxo-ténor bebop aux côtés de Miles Davis. Et puis, très vite, il se lance dans des improvisations qui vont annoncer le free jazz. Donc c'est vraiment un tournant... fondamentale du jazz des années 60.
Vous pourquoi avoir choisi précisément ce titre-là, en tout cas cet album-là, hein, titré Ballade, dont vous dites que c'est un genre qui était relativement décrié à l'époque?
Oui, la critique de jazz à l'époque où j'en faisais était terriblement sectaire, anti-romantique, et des musiciens comme Bill Evans, comme Ben Webster, qui étaient des, ou même Stan Getz, qui jouaient admirablement ce qu'on appelle ces ballades, dont l'une des plus célèbres peut-être est Misty, la composition d'Errol Garner, étaient décriés. Et moi j'aime beaucoup ça. Alors j'ai écrit un article sur Bill Evans en le louant hautement, alors qu'on le prenait, on disait que c'était un petit maître doué ou un pianiste de cocktail. Et Ballades, pour moi, est l'un des mais très nombreux, je dois l'avouer, albums de Coltrane que je privilégie.
Coltrane sont pour vous les années Jazz Hot, Jazz Magazine, hein, les années de pige comme chroniqueur de musique, qui a mention jazz, on l'aura compris. Des années d'écriture donc, hein, puisqu'au fond c'est par là que vous commencez.
Des années bohème quoi.
Aussi, mais néanmoins des années d'écriture. Alors je ne vais pas évidemment revenir sur ce marronnier du rapport éventuellement conflictuel entre l'éditeur et sa propre écriture. Néanmoins, qu'est-ce qu'il vous est resté de cette toute première et accidentelle pratique, c'est-à-dire la pratique de la chronique, de l'écriture, de l'article critique?
Ça a été le terreau où j'ai mis très longtemps avant de faire pousser, pour reprendre une expression chère à Paulhan, auteur des Fleurs de Tarbes, quelques fleurs, quelques plantes.
À propos d'écriture, Jean-Claude Silberstein, une petite question qui est sans doute anecdotique, hein, mais c'est à la lecture de votre livre, évidemment, qu'elle m'est venue. Vous évoquez un livre, un petit fétiche aperçu chez Paulhan, qui s'appelle toujours d'ailleurs, j'allais dire, qui s'appelait Le Dictionnaire des mots rares et précieux, que vous finirez par retrouver après enquête et faire republier. L'écriture de votre livre, qui paraît aujourd'hui, choisit plutôt les faits, les petits faits vrais, donc avec une forme très claire, très limpide, et puis parfois avec comme une sorte d'irruption de mots saillants, qui pourraient être des petits fétiches aussi. Je pense au mot diriment, je pense au mot pécamineuse, je pense au mot purigineuse, qui sont ces trois petits mots saillants qui apparaissent dans votre écriture. Est-ce que ça pourrait être un emprunt à ce fameux dictionnaire, hein, ou une coquetterie?
Ni l'un ni l'autre. J'ai peut-être un côté parfois un peu précieux qui vient incontestablement du fait que j'ai été un enfant unique, choyé, récupéré par mes parents après la guerre. Enfin, comme je l'ai souvent dit, nous étions des survivants. Nous habitions au quatrième étage, rue La Charrière. Après la guerre, papa, maman et moi, on est revenus. Et au troisième étage, il y avait les Grossman, papa, maman, une très jolie petite fille, pour autant que je m'en souvienne. Eh ben, eux, ils sont pas revenus. Alors, c'est vrai que mes parents ont fait très attention à moi, qu'ils souhaitaient toujours que je sois très bien habillé, notamment. Ils étaient un peu dans le textile, alors ça se comprend d'autant mieux. Et bon, ben je suis resté coquet un peu. Voilà. Alors, coquetterie, préciosité, un goût affiché pour la culture. Aux éditions Allary, on m'a dit « mais vous êtes un esthète ». Alors, bon, c'est comme... Libération, il y a quelques années, Claire de Varieux m'avait consacré un article en disant l'esprit de collection, et j'ai réalisé quelques années qu'effectivement j'étais un collectionneur invétéré, et puis j'accepte la définition d'esthète que me donnent les éditions.
Alors, puisqu'on parle de Paulhan, on l'écoute.
Je ne tiens pas du tout à cesser d'être banal. Si je pouvais, je serais davantage encore. C'est évidemment très beau d'être un grand explorateur ou un grand génie, par exemple. Mais ça a de très grands inconvénients. Pour n'en citer qu'un, c'est qu'on est plus libre d'admirer, comme on le voudrait et comme il est très agréable de le faire, les autres grands génies ou les autres grands explorateurs.
Pourquoi vous pensez que la grandeur de quelqu'un le gêne pour admirer celle d'autrui ?
Mais il n'est plus libre, il est embarrassé par lui-même, il est bien forcé de reconnaître sa place. Il n'est plus épaté devant rien. Et évidemment, le monde s'en trouve un peu décoloré. Personne ne peut être à la fois intéressé et intéressant. Si les grandes personnes épate tellement les enfants, c'est pour une raison très simple, c'est parce qu'elles sont beaucoup plus grandes qu'elles. Si l'on se trouve soi-même important, on ne trouve personne plus grand.
La voix de Jean Paulhan, donc au micro de Robert Mallet en 1952, hein, cette voix de vieille dame, dites-vous Jean-Claude Silberstein, que vous entendrez une première fois au téléphone hein, avant de le rencontrer. Enfin, vous qui ne saviez rien ou presque de lui, si ce n'est un titre de livre, hein, FF ou Le Critique, pour ne pas le nommer, vu par hasard dans une bibliothèque lors d'un dîner. Avant de parler de ce qui vous a lié à lui, hein, et sa place est vraiment très grande dans votre livre, un mot peut-être sur ce qu'on vient d'entendre, alors un peu précieux pour reprendre votre terme. On ne pourrait pas être intéressant et intéressé. Comment est-ce que vous entendez ce qu'il dit ? Est-ce qu'au fond, ça pourrait pas être aussi une phrase qu'un éditeur pourrait faire sienne ?
En tout cas, j'ai failli intituler le livre « Je ne suis pas intéressant tous les jours ». Parce qu'il y a beaucoup de jours où, effectivement, je m'intéresse aux autres. Toute la pensée de Paulhan, toute l'œuvre de Paulhan est remplie d'une sorte de morale souterraine qui m'a beaucoup influencé. Il a fait l'éloge de la modestie et je pense que, comme il le dit lui-même dans Les Fleurs de Tarbes, à grand espoir, grande déception. Donc, la position de retrait me semble nettement plus avantageuse, je dis bien avantageuse, que le fait de se mettre toujours devant. Et si quelqu'un m'a conforté dans cette idée, c'est bien mon épouse, Marie-Christine, qui était une maniaque du retrait, si je puis dire.
Maxime Decoux, qu'est-ce que vous évoque ce que nous venons d'entendre, cette voix de Paulhan et l'éloge de la banalité, hein, vous qui travaillez presque son envers
Oui, en effet. Alors, d'un point de vue effectivement de l'éditeur, l'éditeur c'est quand même celui qui s'intéresse d'abord aux autres, qui privilégie plutôt l'autre, le centre d'intérêt qui se focalise à l'extérieur. Et les écrivains que j'envisage moi par rapport à la question de l'imposture, peuvent avoir, enfin les personnages et dans les mises en scène auront ici une attitude qui peut aller au contraire de la mise en avant par une sorte d'excès qui est sous-entendu par l'imposture, ou cette imposture parfois peut procéder d'un sentiment d'imposture, donc de ne pas être à sa place, d'avoir pris une place qui n'est pas la sienne, et de ce fait essayer de la récupérer ou d'en exhiber la facticité d'une manière ou d'une autre.
On y reviendra bien sûr. Paulhan, l'écrivain, l'éditeur, le critique, le passeur, donc à peu près 80 ans comme vous aujourd'hui, Jean-Claude Silberstein, lorsque vous le rencontrez, par une succession de hasards hein, qui vous mèneront à éditer son œuvre, Correspondance comprise. Votre toute première lecture de Paulhan, ce sera finalement L'être un jeune partisan, qui est cette correspondance à un interlocuteur imaginaire écrit en 56 et dont vous dites « Si fort que soit l'amour de la littérature, on ne rencontre pas 10 fois dans une vie de lecteur de textes dont on se dit après coup qu'ils vous ont changé la vie. » Qu'est-ce que vous y avez donc trouvé pour qu'il vous provoque ce que vous appelez, curieusement, un choc zen, une sorte d'illumination au sens taoïste du terme ?
Il m'a rendu, à supposer que je l'ai perdu, ma liberté d'esprit et le goût forcené de l'indépendance qui, sans doute, à mes propres yeux, est l'une de mes caractéristiques essentielles. Il explique dans ce texte, d'une façon pleine d'humour, ce qui est important, qu'on n'est jamais obligé de choisir. Alors, au cas particulier, quand j'avais 25 ans, l'engagement était à la mode. Et je me disais, bon, d'accord, s'engager, mais où ? Vers quoi ? Parti communiste, Sartre, le PSU, qui apparaissait déjà comme quelque chose de sympathique. Mais j'étais très embarrassé. Je crois que mon enfance d'enfant caché a dû, comme ça, jouer un rôle que je n'ai jamais exploré véritablement, mais je sais que j'en suis le produit. Et grâce à Paulhan, j'ai compris que on n'est pas obligé de choisir, parce que dans le cadre d'une seule journée, on peut se montrer à la fois démocrate avec ardeur, un peu royaliste, voire en tout cas aristocratique ou aristocrate, je ne sais pas. Et ça, ça m'a vraiment libéré. Et j'ai vu le ciel s'ouvrir à la fin du livre. Je me suis dit, ce type est un génie. C'était Paulhan le libérateur.
Paulhan qui, enfant, Jean-Claude Zilberstein, lorsqu'on lui demandait s'il préférait le jeudi aller au théâtre ou au cinéma, se mettait à pleurer et répondait « j'aurais voulu les deux ». Donc ce qui revient à ce que vous venez de nous expliquer, hein, ne pas choisir ne serait pas une tare. Et pourtant, on imagine en tout cas que éditer, c'est d'abord choisir.
Éditer, c'est choisir, mais ça peut être choisir par défaut. J'ai eu un principe que je conserve, puisque c'est à l'aune de ce principe que je fais des collections aujourd'hui encore aux belles lettres. C'est avec un esprit critique développé. L'esprit critique développé, ça consiste à regarder ce que ne font pas les autres. Un jour, on m'a demandé, mais alors la concurrence, j'ai dit, écoutez, la concurrence ne m'intéresse pas. Moi, je veux pas faire comme les autres pour avoir des best-sellers. Je veux au contraire aller dans les marges, avoir un rôle de juge, m'a dit un jour une amie magistrate, pour réparer des oublis et des injustices.
Alors, réparer demande souvent enquête, Jean-Claude Zilberstein, enquête ou chasse, hein, comme le dit le titre de votre livre. Pour Paulhan, vous commencez par faire des recherches, hein, bibliothèque, éditeur, coup de fil, et vous dressez une bibliographie, ou en tout cas une tentative de bibliographie polanienne. Vous cherchez les ouvrages encore disponibles, et ils sont peu nombreux à cette époque-là, avant même d'oser le rencontrer. Et c'est une manière de faire qu'on retrouve à plusieurs reprises, hein, tout au long de votre récit. Je pense en particulier à l'édition des Inédits d'Achiel Hamet, qui a demandé aussi une enquête incroyable, c'est-à-dire pour l'essentiel, hein, rattraper, sauver, repêcher, réparer, comme vous l'avez dit, hein, passer des textes, compléter aussi des œuvres, comme vous l'avez tant fait pour le domaine étranger des éditions 10-18. Quel éditeur est-ce que cela fait de vous, cette manière-là?
Un dilettante perfectionniste, si le paradoxe ne vous choque pas trop. Mais
nullement.
Paulhan était un grand amateur de paradoxe et du même coup de Chesterton.
Vous êtes donc, on pourrait dire en tout cas, un éditeur de collection. Hein, vous avez parlé tout à l'heure de ce titre dans Libération, de l'esprit de collection, qu'on pourrait relier, parce que vous y revenez beaucoup, hein, dans votre livre, qu'on pourrait relier aussi à votre goût tout aussi obsessionnel de la liste, hein, liste de collection de catalogues d'éditeurs, hein, qui sont eux-mêmes des listes, listes de termes de droit, de livres d'art, listes des séances de films, hein, lorsque vous étiez adolescent, avec titre, acteur et même la personne qui vous accompagnait, liste de chaque disque de jazz entré dans votre collection depuis 1954. Au fond, est-ce que éditer, pour vous, d'une certaine façon, c'est aussi faire des listes, c'est aussi collectionner? Parce qu'il ne vous aura pas échappé que le terme collection a dans ce sens-là
un
double sens.
Oui. Moi, j'aime bien le titre qu'avait donné Georges Perec à un de ses petits ouvrages, Pensée classée. J'ai toujours beaucoup aimé ça, classer. Je pouvais passer des heures dans ma chambre à classer mes disques, classer mes livres, bien les ranger. Et ensuite, ça me permettait de les retrouver, alors qu'il y en avait beaucoup. Il me reste 30 000 vinyles, 15 000 à Paris, 15 000 à la campagne. Et je sais exactement où ils sont. Et à propos de cette maison de campagne, et pour reparler de Marie-Christine, Marie-Christine allait à la campagne, elle avait trouvé ses racines, beaucoup plus souvent que moi, notamment l'hiver. Et de temps en temps, j'avais besoin d'un livre qui se trouvait dans l'une des bibliothèques. Alors je lui disais, tu vas dans la petite maison, c'est sur le mur de droite, le troisième rayon à partir de 1, et c'est au fond à gauche. Et à chaque fois, elle était assez épatée en me disant, mais il y a 20 000 livres à la campagne, comment est-ce que tu peux te souvenir? Pensée classée.
Alors ces souvenirs dressent évidemment le portrait d'un éditeur classeur, donc, d'un avocat, mais aussi d'un mélomane, d'un lecteur acharné, d'un collectionneur, et en creux, une histoire de l'édition française aussi, hein, d'une certaine façon, puisque défilent là Claude Chou, Bernard de Fallois, Jean-Claude Lattès, Jean-Marc Robert, furtivement, Pierre Auster, Christian Bourgois, Bernard Fixot, bien peu de femmes d'ailleurs, hein, durant éditrice, hein, j'entends, dans cette...
La principale, Nicole Lattès.
Au moins une. Et puis vous continuez quand même aussi à, enfin vous citez, donc il y a tous ces gens-là évidemment qu'on rencontre dans ce livre. Et puis le tournant des années 80 et l'entrée de la finance hein, dans le monde de l'édition, mais aussi les petites maisons d'aujourd'hui, hein, parce que tout ça se continue. Je pense notamment au Bruit du Temps auquel vous rendez hommage. Est-ce que, alors vous venez de le dire, la concurrence au fond ne vous intéressait pas, mais néanmoins, est-ce qu'à un moment donné, il y a quand même eu, parmi tous ces gens-là, quelqu'un qui aurait pu faire modèle et qui aurait pu vous souffler ce que vous appelez votre théorie du millefeuille, hein, Jean-Claude Silberstein?
Il y a quelqu'un que je respecte, non seulement je le respecte, mais à qui je dois beaucoup, à qui je dois le plus, c'est Bernard de Fallois. Alors, d'une certaine façon, il a aussi construit un millefeuille, parce qu'il a alterné avec une science presque diabolique, les livres de qualité et les best-sellers. Il a su conjuguer les deux et c'est très difficile. Moi, j'ai surtout œuvré, je crois pouvoir le dire, dans la qualité, parce que même les raconteurs d'histoire que j'ai décidé de faire publier ou rééditer ont rarement été d'énormes best-sellers. Enfin, si, il y a eu les Enquêtes du Juge-Ti de Robert Van Gulik, ou il y a eu les Mémoires de Churchill qui, inexplicablement, ou encore Si c'est un homme de Primo Levi, qui sont des volumes qui avaient inexplicablement disparu de la circulation. Mais, vous savez, on l'a rappelé tout à l'heure, j'ai travaillé à Jazz Magazine et j'avais rencontré là les fondateurs qui sont devenus les propriétaires, les copropriétaires du groupe Hachette Filipacchi, Daniel Filipacchi lui-même et Franck Thénault. Et puis j'ai revu Franck Thénault, bon, j'ai arrêté ma collaboration à Jazz Magazine pour me consacrer aux petits travaux que je faisais au Nouvel Observateur. Puis j'ai eu un client qui était très ami de Franck Thénault et il m'a dit « Ah ben je vais vous faire dîner ensemble ». Et alors cet ami dit à Thénault à la fin du dîner, mais comment se fait-il que Jean-Claude n'ait pas continué à travailler avec vous puisque vous avez développé? Et Thénault lui a dit, ah mais Jean-Claude était déjà très élitiste. Alors, j'assume cet élitisme.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farid.
Évidemment, on n'aura pas le temps de tout aborder, mais il y a évidemment le livre développe nombre de cas à partir du moment où, sur le tard, hein, vous devenez avocat. Enfin, quand je dis sur le tard, vous avez 35 ans, ce qu'il est sur le tard. Et je me demandais si maintenant, Jean-Claude Silberstein, vous saviez pourquoi vous êtes avocat et éditeur.
Non, ça, j'attends qu'on me le révèle.
Parce que quand on vous a proposé par exemple de prendre la direction de 10-18, hein, après le départ de Christian Bourgois, ce que vous avez refusé justement pour maintenir ces deux jambes-là, c'est-à-dire à la fois l'édition et le barreau. Mmh.
Bah, j'ai répondu par anticipation, un goût de l'indépendance forcenée. Je suis le fils d'un petit boutiquier qui n'hésitait pas à mettre un client antipathique à la porte. J'ai été salarié 18 mois, je n'ai pas particulièrement aimé la hiérarchie expresse ou hypocrite qui peut exister dans certaines entreprises, y compris dans les entreprises culturelles. Et s'il avait fallu choisir, si on m'avait dit « mais vous êtes un horrible cumulaire, c'est très mal ce que vous faites là, deux métiers », j'aurais abandonner l'édition tout en continuant à être un piéton de librairie forcené pour rester avocat, parce qu'avocat, je pouvais me lever à l'heure qui me convenait, je pouvais travailler à ma guise, à mon compte.
Vous racontez bien d'ailleurs hein, comment le droit vous a mûri. Alors en même temps, le droit arrive aussi à un moment où vous êtes plus âgé. Au fond, est-ce que c'est le droit ou la littérature qui ferait un meilleur citoyen pour vous ?
Ah, il faut les deux. Il faut les deux. Il faut la littérature pour s'ouvrir la tête. Mais pour être un véritable citoyen, il faut connaître ses droits. Et on ne peut connaître ses droits que si on a fait un peu de droit. Et j'ai toujours déploré le fait qu'on sorte, enfin en tout cas de mon temps, on sortait du lycée, un bac en poche, et on n'avait jamais ouvert ni un code pénal, ni un code civil, ni un code du travail, rien. On nous lâchait dans la nature, et nous étions, comme Marie-Christine me l'a souvent dit lorsque nous regardions le journal télévisé, elle me disait, alors même que nous étions tous les deux avocats, elle me disait, mais nous sommes des agneaux parmi les loups. Alors si on ne veut pas se laisser dévorer trop vite, il vaut mieux avoir un minimum de bagage juridique.
Alors on l'a compris, vous l'avez évoqué, Jean-Claude Hilberstein, qu'au fond il y a quand même ce lien entre votre position d'avocat et celle d'éditeur qui serait une forme de réparation, quelque chose qui relèverait de la réparation et qu'il faudrait peut-être aller effectivement aller chercher du côté de votre enfance. Est-ce que ça veut dire que l'avocat et l'éditeur demandent les mêmes qualités? Vous parlez beaucoup pour l'avocat de la rigueur et de l'imagination. C'est la même chose.
Si ça n'est pas trop prétentieux, je pense qu'effectivement, comme éditeur, j'ai appliqué les principes de l'avocat, imagination, curiosité assez inlassable, mais en même temps rigueur, avoir l'esprit critique pour voir ce qui se fait de bien, enfin ce qui est bien et ce qui est surtout ce qui est oublié, ce qui mérite de venir ou de revenir en librairie pour la plus grande satisfaction des gens qui aiment lire.
Mais comment diable vous en êtes-vous tiré, Holmes?
Vous connaissez ma méthode, Watson, et une réputation qui n'est pas tout à fait usurpée. Et puis, c'eût été un crime de manquer cette excellente perdrix.
Mais comment avez-vous su que... Comment avez-vous su que c'était Carfax? Dites, Holmes.
Il s'est livré sous vos yeux. Quand j'ai laissé tomber le coffret devant lui au pied de l'escalier, il s'est empressé de le ramasser, vous avez vu?
Oui, élémentaire politesse, sans doute.
Vous, un médecin, vous n'avez pas remarqué qu'il a immédiatement remis chaque instrument à sa place exacte? Étrange, me suis-je dit. Très étrange. Un profane aurait cherché des emplacements. Carfax n'a pas hésité.
Oh, à mon avis, c'est un peu jeune comme indice. N'apparaît-il pas évident que le docteur
Murray... Il n'y a rien de plus trompeur que ce qui paraît évident, Watson.
Un extrait de Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur, qui était un film signé James Hill en 1965. Avec John Neville dans le rôle titre, Sherlock Holmes très présent dans votre essai, étude, critique, Maxime Decoux, Les pouvoirs de l'imposture qui paraît chez Minuit. Qu'est-ce qui en fait un personnage, si ce n'est le personnage? Alors il y a Dupin aussi, mais on va y revenir, mais un personnage clé de votre enquête. Quelle est au fond sa fonction dans votre essai? Ce qui nous permettra peut-être de comprendre un petit peu comment s'articule cette enquête complexe.
Dans le texte, en fait, j'ai choisi d'étudier la question de l'imposture en lien avec celle de l'enquête, puisque dès qu'il y a imposture, il y a une sorte de désir d'enquête où ça déclenche effectivement une enquête. Et ma question est de voir comment, à un moment donné, à partir à peu près du 19e siècle, cette enquête devient privilégiée, non seulement chez les personnages, mais aussi dans les dispositifs littéraires eux-mêmes et, par voie de conséquence, chez le lecteur. Et l'un des modèles évidents, c'est le roman policier. Roman policier dont je prends une sorte d'archétype en le réduisant volontairement, hein, parce qu'on ne peut pas aborder toutes ces facettes, mais à trois grands auteurs de romans à énigmes. Donc, comme vous l'avez dit, Poe, avec son célèbre enquêteur Auguste Dupin, le fameux Sherlock Holmes, et puis les textes d'Agatha Christie. Et ici, on voit bien dans l'extrait la manière dont Holmes affiche la singularité de sa méthode, de ne pas regarder de la même manière que les autres, professant quelque chose comme aller à contre-courant de ce qui serait les évidences, de ce qui est souvent d'ailleurs la méthode de la police, Scotland Yard, qui est souvent dévalorisé dans ces récits-là. Donc il y a une sorte d'anticonformisme de la pensée qui est mis en scène. Même si ce qu'on constate, c'est que ce soit chez Agatha Christie ou chez Conan Doyle, les détectives ne sont pas toujours ni au service de l'ordre en place, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas véritablement, pas toujours en tout cas, à aider la police. Et à...
Il arrive même qu'ils laissent filer les criminels.
Tout à fait, qu'ils laissent filer les criminels. pour différents motifs, et notamment chez Holmes, il y a une grande fascination pour certains criminels dont l'intelligence pourrait rivaliser avec la sienne. Ce qui montre bien que dès le roman à énigmes traditionnel, on a un récit qui contient un certain nombre de failles, qui fait de l'enquêteur un potentiel imposteur ou qui va avoir une certaine attirance, une certaine fascination pour ces imposteurs.
Mais c'est déjà un imposteur dans la mesure où il n'est pas exactement à sa place.
Tout à fait.
Puisque, en fait, il prend la place de la police.
Oui, la singularité de ces enquêteurs, Dupin, Poirot, Holmes, c'est que ce ne sont pas des professionnels de l'enquête. Ce sont des amateurs qui sont plus doués que les professionnels de la police. Et ça place, si vous voulez, la question du savoir, la question du déchiffrement du monde, des énigmes, hors de cette sphère des professionnels, dans une sorte d'anticonformisme, véritablement, chez Dupin, dans la célèbre Lettre volée, qui est un récit très important de Poe, on voit bien cet anticonformisme de la pensée, puisque une lettre a disparu, la police est persuadée qu'elle est toujours au même endroit, mais n'arrive pas à la retrouver, tout a été fouillé, il n'y a pas de cachette, et seul Dupin parvient à comprendre qu'en fait la lettre a été laissée en évidence à la vue de tous, simplement légèrement maquillée, et qu'il a compris en fait que l'évidence même est quelque chose d'aveuglant, et ça on en fait l'expérience régulièrement, quand on cherche ses clés, généralement elles sont là où elles devraient être, mais évidemment c'est là qu'on ne les cherche pas. Et cet archétype du roman policier en fait a une place décisive dans toute la littérature du XXe siècle, du XXIe siècle, chez un grand nombre d'auteurs, Georges Perec, Alain Robbe-Grillet, qui vont reprendre ces questions d'enquête.
Eschnoz, Nabokov,
beaucoup, très souvent pour questionner les possibilités de déchiffrement aussi bien de la littérature que du lecteur.
Jean-Claude Hilberstein, qu'est-ce que Sherlock Holmes pour vous, est-ce que c'est la clé du roman policier tel que vous l'avez édité, c'est-à-dire, quand vous en parlez dans le livre, hein, vous en parlez comme ce goût que vous avez du héros récurrent qu'on pourrait retrouver comme des vieux chaussons confortables, oui. Hein, et qui vous ont mené plus du côté du polar, hein, du roman policier, que du roman noir.
C'est-à-dire que c'est une espèce de... Les enquêtes de Maigret ou d'Hercule Poirot, c'est aussi une forme de drogue ou d'accoutumance. Alors on arrive dans les bras de Sherlock Holmes, mais j'étais passionné par la description que vous avez faite, parce que j'ai eu le sentiment que ça peut très bien s'appliquer à la façon dont j'ai fait de l'édition. Pas en professionnel. Et j'aurais la vanité de dire que n'étant pas professionnel, certaines de mes collections étaient plus réussies que si j'avais été un professionnel.
Et en enquêteur aussi.
Oui, largement. En enquêteur. Qu'est-ce qui ferait alors de... Après, on va s'arrêter avec eux, parce que c'est vrai que c'est le point de départ. Hein. Vous posez en fait les données de l'enquête à partir du roman policier comme modèle, et de ce roman policier-là en particulier, à énigme, du roman à énigme. Qu'est-ce qui ferait de quelqu'un comme Dupin, par exemple, l'envers d'un Sherlock Holmes?
Alors, Dupin et Sherlock Holmes sont des personnages qui sont finalement très proches. On a des scènes très similaires dans certains récits consacrés à Sherlock Holmes.
Conan Doyle s'y réfère, hein, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et il y a des mises en scène parfois de déductions qui sont pratiquement des réécritures de ce qu'on pourrait trouver sous la plume de Poe. Mais Sherlock Holmes, en même temps, tient à se distinguer de son confrère Dupin, notamment face à Watson, hein, qui lui en rappelle l'existence. Et Sherlock Holmes considère que Dupin n'est pas un très grand inspecteur et que lui est quelqu'un qui est bien supérieur avec une méthode beaucoup plus novatrice.
Il dit même, je crois que c'est dans une étude en rouge, oui. Hein, dans le tout premier roman qui met en scène Sherlock Holmes, où Holmes dit à Watson « Vous pensez certainement me faire un compliment en me comparant à Dupin », observa-t-il. « De mon point de vue, c'est un collègue tout à fait inférieur. Cette façon de s'immiscer dans les réflexions de ses amis avec une remarque tout à fait à propos après un quart d'heure de silence est vraiment très artificielle et tape à l'œil. Il possède sans aucun doute un certain génie analytique, mais ce n'était en aucun cas un phénomène tel que Poe semble l'imaginer. »
Oui, voilà. Alors, c'est exactement ce que je disais. Cet orgueil aussi, hein, qui fait partie du plaisir qu'on a à observer ces personnages, qu'on va retrouver aussi chez Hercule Poirot. Et il y a une véritable passion dans ces récits à théâtraliser la pensée et son originalité. Hercule Poirot évoque sans arrêt ses petites cellules grises. Et on retrouve la même chose avec Dupin. Dupin qui met en scène son intelligence en train de fonctionner. En fait, dans le roman à énigmes, si vous voulez, la majeure partie du texte n'est pas consacré à l'énigme elle-même, à ce qui s'est passé, mais à la reconstruction. C'est la marche d'un savoir, d'une méthode, c'est vraiment le triomphe d'une pensée. Et c'est là que la rupture se fait véritablement avec les œuvres qui vont reprendre ce modèle ensuite, donc chez Rob Grier, chez Perec, chez Nabokov, parce qu'ils vont le reprendre pour le faire dérailler, justement, pour mettre à mal cette pensée, la faire dysfonctionner. On peut l'observer, par exemple, chez Jean Echenoz, dans les polars d'Echenoz, les moments de réflexion des enquêteurs sont extrêmement réduits, voire complètement absents. Dans Shiroki, par exemple, l'intrigue n'est dénouée que par une série de hasards, de coïncidences, et non pas par un génie analytique. Et la plupart de ces écrivains vont au contraire mettre en scène la manière dont cette pensée analytique géniale peut même être dangereuse, la source d'un piège, on l'observe chez Borges, chez Perec aussi dans 53 jours, ou même dans Les Gommes de Rob Grier, c'est l'enquête elle-même, c'est à force de raisonner que les enquêteurs deviennent aveugles au réel, en quelque sorte. Dans La mort et la boussole de Borges, l'inspecteur Lönnrot voit, donc il y a une série de morts, et l'inspecteur de la police lui dit « bon, ben, c'est lié à un vol ». Et Lönnrot lui répond que c'est une hypothèse possible, mais que ce n'est pas intéressant. Et il décide que ce n'est pas lié au hasard d'un vol. Et en fait, de fil en aiguille, c'est lui qui se fait prendre au piège parce que le premier meurtre était véritablement lié à un vol, et donc à un hasard, et donc une possibilité qui n'est pas en soi intéressante.
En même temps, c'est aussi un peu ce que fait Sherlock Holmes parfois, c'est-à-dire qu'on a aussi le sentiment que très vite, que c'est Sherlock Holmes qui décide de l'intrigue.
Tout à fait. Chez...
Ou de l'hypothèse qu'il va retenir.
Tout ouais. à fait. Il y a une sorte de partialité dans les récits que produisent ces enquêteurs à la fin. Comme s'il s'agissait d'une sorte de fiction, finalement. Sherlock Holmes invente un récit qui concorde avec les événements. Il a l'air de pouvoir choisir entre différentes possibilités. Et à ce titre, il est très proche d'une figure d'écrivain, de raconteur. Et c'est d'ailleurs ce que se plaît beaucoup à démontrer nombre de reprises de ce schéma du roman à énigmes dans une grande part de la littérature du XXe et du XXIe siècle, c'est-à-dire d'exhiber le fait que ces récits sont des fictions et que la démarche de Dupin en particulier, c'est une démarche qui est en fait une sorte d'explication de texte. Elle fonctionne beaucoup mieux sur des textes que sur du réel. Et on observe notamment à partir d'Henry James une tendance à textualiser les enquêtes, c'est-à-dire à transformer les enquêtes non plus... Elle ne porte plus strictement sur le réel, mais elle porte avant tout sur des textes, sur des œuvres d'art, sur des fictions. Et une sorte de virage qui se joue, on peut penser au motif dans le tapis, qui est une très célèbre nouvelle de James. Dans laquelle l'enquête porte sur l'œuvre d'un écrivain, Hugh Vereker, qui affirme qu'il y a un motif caché dans tous ses textes, qui est comme dans un tapis persan, en fait dissimulé, et que personne ne l'a découvert. Et on a ici plusieurs personnages qui sont des critiques littéraires qui vont se mettre en quête de ce motif, donc mener une véritable enquête, et qui ne parviendront pas à la trouver, et qui sont en quelque sorte pris au piège par le texte. Parce qu'à partir du moment où on enquête sur des fictions et qu'on les prend pour du réel, évidemment, la mauvaise foi est partout, le mensonge, et on risque de tomber dans beaucoup plus de pièges.
Alors, à propos de ce roman policier qui pourrait faire de figure de modèle pour une certaine histoire de la littérature du XXe siècle et du XXIe siècle, un modèle qui déraille, mais un modèle néanmoins, voici ce qu'en dit Georges Perec.
Georges Perec, dans cette revue L'Arc, toujours vous parlez du roman policier comme le véritable champ de duel entre l'auteur et le lecteur.
Oui, parce que moi je suis un fanatique du roman policier classique anglo-saxon à énigmes. Et il y a un personnage qui est un inconnu qui est l'assassin. une donnée de base qui est le crime et un détective qui sait tout ce que c'est le lecteur. Et en fait, le jeu se joue entre l'auteur et le lecteur, et il faut que quand on lit une deuxième fois un roman policier, ce qui pratiquement n'est pas à faire, on comprenne que dès le début, que toutes les indications qui ont été données sont des indications qui auraient dû permettre de trouver.
Donc un roman policier, c'est un peu comme un mot croisé.
C'est un peu comme un mot croisé. Pour moi, c'est la base même de toute l'efficacité romanesque.
La voix de Georges Perec en 79 dans Panorama sur France Culture. Où donc il explique comment le roman policier, sa structure, voire la transgression de sa structure, lui permet. Je me demandais, puisque là fait irruption le lecteur aussi, dans ce que Perec raconte, l'imposture étant par nature, vous le dites bien, relationnelle, s'il y a imposture, et c'est là le cœur de votre essai, il y a berné, il n'y a pas de mot pour dire imposturé, ou je ne sais pas comment,
il n'y a pas
de verbe, il n'y a pas d'adjectif à disposition. L'imposteur berne, le lecteur, lui, est éventuellement crédule. Sur quel lecteur table finalement l'imposteur? Quel lecteur est-ce qu'il veut? Est-ce que le bon lecteur, c'est celui qui se laisse berner, ou est-ce que c'est celui qui contre-enquête? Qu'est-ce que ça fait de nous, en fait, tout ça? Est-ce que ça fait de nous un Watson? Est-ce que ça fait de nous un Sherlock Holmes?
Alors, c'est-à-dire que la question de l'imposture et la question de l'enquête, c'est véritablement la question du lien au lecteur. Vous le dites très bien, c'est central. Ça place le lecteur dans une démarche active. Alors après, on a plusieurs manières de lire aussi bien des romans policiers que des reprises de ce modèle. Vous pouvez effectivement être un mauvais lecteur qui se fait tromper, pour le plus grand plaisir, ou un lecteur qui va...
Mais ça, c'est un mauvais lecteur?
C'est le bon mauvais lecteur, en fait. Il faut parfois mal lire pour bien lire. C'est un peu le paradoxe de ces textes. Et en même temps, le bon lecteur, c'est aussi celui qui va contre-enquêter, donc reprendre l'enquête, prendre les indices. C'est le paradoxe, si vous voulez, du roman policier, c'est-à-dire qu'il s'agit de lire dans une sorte de compétition, de retarder le plus possible l'arrivée de la fin du livre pour avoir trouvé avant le détective.
Et ça, c'est le mauvais lecteur, parce qu'au fond, c'est le lecteur qui pourrait ne pas finir le livre.
Tout à fait, mais en même temps, c'est ce qu'on attend, c'est à la fois ce qu'on vous demande et ce qu'on ne vous demande pas. L'un dans l'autre, l'auteur le sait. Donc c'est là qu'on s'engage dans une sorte de rivalité, c'est-à-dire que l'auteur sait que vous allez traquer un certain nombre d'indices, les plus évidents. Vous-même, vous savez que les indices les plus évidents ne sont pas les bons, donc vous allez chercher la solution dans les indices les moins évidents. Mais même à la fin, de toute façon, quand l'enquête est résolue, il est toujours possible de contre-enquêter, de mettre en doute les solutions proposées par un roman ou un roman policier, ce qu'ont fait plusieurs critiques littéraires comme Pierre Bayard, Jean-Pierre Nogrette. On a plusieurs textes qui ont permis de réenquêter sur des affaires qui semblaient closes à la fin des textes. Et dans un grand nombre de récits, vous ne pouvez pas véritablement mener cette contre-enquête. Dans La disparition de Georges Perec, dans Les gommes d'Alain Robbe-Grillet, dans Projet pour une révolution à New York du même Robbe-Grillet, parce que ces textes reposent sur des manques, des failles textuelles qui, contrairement à ce qu'on va observer chez Agatha Christie ou chez Conan Doyle, ne permettent pas de reconstituer véritablement les faits. Il y a toujours un blanc au centre de l'enquête. Alors, notamment dans La disparition de Perec, c'est un exemple assez intéressant d'un fonctionnement double. Il y a une sorte de bifurcation de l'enquête, puisqu'il s'agit d'un roman policier sur la disparition en série d'un certain nombre de personnages qui sont tous marqués d'un signe innommable, incompréhensible, indescriptible, et qui se révèle appartenir à la même famille éliminée par un ancêtre commun qui s'appelle le Barbu. Mais en même temps, l'écriture elle-même répercute ces disparitions, puisqu'il s'agit d'un lipogramme. Le roman est écrit sans jamais utiliser une seule fois la lettre E. Et la plupart des passages, notamment les passages de mise à mort des personnages, sont des passages qui évoquent la disparition de la lettre E de manière codée. Si bien que le lecteur est dans une double position, il enquête à la fois sur l'intrigue et il enquête sur la disparition, sur les procédés formels, la disparition du E. Et il y a plusieurs attitudes possibles. Vous pouvez devenir un lecteur maniaque obsédé par la mise en scène de la disparition du E, donc délaisser complètement l'intrigue du roman.
C'était votre cas ?
Non. Et là, vous êtes une sorte de lecteur attendu, mais de mauvais lecteur malgré tout, de bon mauvais lecteur. Et puis, vous pouvez aussi délaisser cette partie-là pour vous concentrer sur l'enquête au niveau des personnages, mais là encore, vous n'arriverez pas à la résoudre. De toute façon, vous êtes condamné à échouer parce que le texte ne permet pas de résoudre l'énigme.
Qu'est-ce que ce modèle, alors, finalement, de roman policier permet véritablement à Pérec? Et puis, finalement, quoi, est-ce qu'on est encore dans le champ de l'imposture, hein, parce que c'est quand même ça, le cœur de votre affaire, ouais. Maxime Decoux.
Chez Pérec, il y a plusieurs choses, hein, puisqu'on a le modèle du roman policier, qui est vraiment pour lui une manière de se confronter directement à son lecteur, et donc de le faire participer à la construction du sens au texte, de le forcer à une lecture active, et se mettre lui-même en question, modifier son regard sur le réel. Et en même temps, vous avez, et d'ailleurs il le dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre, avec les mots croisés, il y a un deuxième modèle qui vient compléter, c'est le modèle du jeu.
Le jeu sur lequel vous attardez.
Très important, parce que le jeu, en fait, sauf pour le jeu véritablement, le jeu qui n'est que jeu de hasard, le jeu impose une forme d'enquête. Quand vous jouez, vous enquêtez d'une manière ou d'une autre, alors notamment dans le jeu de cartes, vous enquêtez, vous mentez, vous trichez. Vous pouvez tricher en tout cas, mais même quand on joue sans tricher, vous dissimulez un certain nombre d'indices, de preuves, aussi bien dans les cartes que dans le puzzle. Par exemple, le jeu du puzzle est un modèle très important pour Pérec qui est exposé dans le préambule de La vie mode d'emploi. On pourrait croire que c'est un jeu pour enfants, pour personne qui doit me combler ses après-midi, et un jeu solitaire. Or, Pérec explique que pas du tout, le puzzle est pour lui un modèle même de la lecture, dans le sens où cela met en scène deux personnes, le faiseur de puzzle, donc celui qui l'a fabriqué, et le poseur, celui qui résout l'énigme, donc qui va enquêter sur le puzzle, et qui en
comme
même temps...
Comme les mots croisés.
Voilà, qui en même temps va s'affronter d'une manière ou d'une autre à celui qui a fabriqué le puzzle, qui lui-même a programmé un certain nombre de ruses pour empêcher la résolution.
Donc c'est un rapport violent.
C'est un rapport de rivalité, oui, très clairement, mais en même temps à la fois ludique, mais qui dans la vie mode d'emploi tout particulièrement n'est pas exempt d'une véritable cruauté, d'une véritable violence. L'une des intrigues, hein, puisque c'est un roman avec un S, comme le sous-titre Georges Pérec, donc avec de multiples histoires. L'une des histoires justement s'attache à deux personnages, Bartholbus et Gaspard Winkler, l'un qui fait des puzzles pour le second, et Gaspard Winkler qui cherche en fait, en faisant les puzzles, à prendre au piège Bartholbus, et qui à la fin triomphe de Bartholbus, puisqu'à la fin il ne lui reste qu'une pièce à mettre et elle n'a pas la bonne forme, c'est-à-dire que la pièce a la forme d'un X et la forme d'un W, il reste la forme d'un X, et donc le puzzle ne peut pas être achevé.
Alors je comprends bien, Maxime Decoux, cette question du jeu, mais pour autant, pardonnez-moi d'y revenir, mais comment est-ce que vous nouez tout ça à la question ou à la stratégie même de l'imposture en fait ? Parce que parfois on la perd un petit peu de vue, alors même si vous dites que l'imposture a l'esprit large, et c'est vrai que dans cet essai, par nature, hein, par définition aussi. Hein. L'imposture va se balader effectivement de l'auteur au personnage, au narrateur, au lecteur, et va prendre différentes formes. Et donc là, justement, sur la question du jeu, comment est-ce que ça se noue alors, à l'imposture,
alors,
au pouvoir de l'imposture.
L'imposture en tant que telle, hein, c'est être à une place qui n'est pas la sienne, ou faire croire qu'on est quelqu'un, quelque chose, mais... Donc c'est un leurre sur une identité, une place. Cette imposture, elle est quelque chose qui fascine la littérature depuis toujours. On peut penser à Ulysse, dès l'Odyssée. Ulysse, contrairement à d'autres personnages dans l'Odyssée, comme en particulier comme Achille qui déclare qu'il déteste les mensonges, etc. Ulysse, lui, cultive la ruse, cultive le travestissement d'identité, notamment dans le célèbre épisode face au Cyclope, hein, où il annonce que son nom est personne, c'est-à-dire qu'il travestit son identité, il la supprime en devenant personne pour échapper au Cyclope. Mais en même temps, Ulysse reste une sorte de patriarche des poètes, celui qui raconte sa propre histoire de manière tout à fait honnête et irréprochable, sans leurrer ses auditeurs. Donc si vous voulez, à ce niveau-là, on voit déjà que la littérature est fascinée par ces figures, mais qu'en même temps, le récit en est partiellement préservé. Et progressivement, à partir du XVIIIe siècle, véritablement au XIXe, et donc avec l'émergence notamment du récit à énigmes, cette imposture se fait plus présente, pas seulement au niveau thématique, mais elle devient un véritable dispositif d'écriture en tant que tel, et elle va trouver différentes formes pour se dire. Alors, la forme du roman policier, tout ce qui va avoir trait au jeu, notamment jeu qui va permettre donc d'entretenir cette relation dont on vient de parler avec le lecteur, de tromper ce lecteur. On a plusieurs exemples de textes qui sont écrits sur le modèle du jeu d'échecs, du puzzle, du jeu de Go chez Jacques Roubaud, etc. Figure aussi du faussaire, très importante, et là encore, on va avoir des répercussions en termes de forme littéraire d'écriture. On peut penser à Un cabinet d'amateurs de Georges Perec, qui est un faux catalogue d'exposition qui raconte l'histoire d'un faussaire. On peut penser aussi au récit qui s'appelle Les Onze de Pierre Michon, sur une toile qui n'existe pas.
Pardonnez-moi de vous couper, mais le faussaire n'est pas l'imposteur. Hein. C'est pas la même chose, il n'y a pas d'équivalence entre les deux.
Alors le faussaire, ça repose quand même sur une imposture, c'est-à-dire faire passer une toile pour ce qu'elle n'est pas. Hein, le but du faussaire est bien de créer quelque chose qui va faire passer pour vrai alors qu'il ne l'est pas. Quand dans le conte d'Authière de Perec, le personnage cherche à créer un faux Antonello de Messine, il s'agit à proprement parler d'une imposture. Et ensuite, on a d'autres volets, si vous voulez, et une des figures importantes, c'est aussi celle du psychanalyste, de la psychanalyse, puisque à partir du XXe siècle, de l'émergence de la psychanalyse, la littérature ressent une sorte de concurrence vis-à-vis de cette science, dans ses possibilités d'investigation de la psyché humaine.
Et de l'interprétation,
c'est la question centrale. Et va mettre en scène, si vous voulez, on a un certain nombre de textes, notamment chez Nabokov, où on présente le psychanalyste comme un imposteur, la psychanalyse comme une véritable imposture, qu'on oppose à la littérature.
Jean-Claude Hilberstein opine.
Qui serait la littérature, qui serait elle une imposture féconde, contrairement à la psychanalyse, dans ces lectures-là qu'on propose les écrivains. Nabokov parle du vaudou freudien, et il y a régulièrement des préfaces où il défie le petit freudien ou la délégation viennoise, et il les met au défi de venir enquêter dans ces textes en leur expliquant qu'il y a un certain nombre de pièges et d'impostures plus intelligentes que les leurs.
Alors justement, cet essai-là, Maxime Decoux, fait suite à deux autres essais, donc en fait une forme de trilogie, hein, puisqu'il y a eu En toute mauvaise foi sur un paradoxe littéraire paru en 2015 et Qui a peur de l'imitation en 2017, donc imitation, mauvaise foi, imposture, qu'est-ce que ça raconte déjà de ce qui vous intéresse, vous, en littérature. Et par ailleurs, je me demandais aussi, donc ça, ce sont ces trois ouvrages que vous avez publiés coup sur coup, mais presque dans le même temps et un tout petit peu avant, il y a eu deux autres essais, l'un qui s'appelle « Écrire la judéité, enquête », encore une, sur un malaise dans la littérature française au Champ Vallon, et puis Albert Cohen, « Les fictions de la judéité » aux éditions classiques Garnier. Est-ce qu'il faudrait faire un lien entre toutes ces enquêtes-là?
Alors, je ne sais pas s'il y a un lien entre ces différentes enquêtes. Alors, les trois dernières publiées aux éditions de Minuit, évidemment, oui. La question des ruses, des manigances littéraires, qui en fait repose sur deux questions, à mon avis, principalement, avec des variations sur ces approches. C'est la question du déchiffrement, de l'herméneutique, dirait-on. Donc, qu'est-ce qui fait, comment lire les textes, comment lire le réel. Je pense que c'est la question centrale que pose la littérature avec ses ruses, en quelque sorte. Et puis la deuxième question, c'est la question aussi des identités qui sont troublées par tous ces jeux d'imitation, ces jeux de mauvaise foi, ces jeux d'imposture. Et là, c'est vrai que cette question identitaire, c'est celle qui était au centre de mes deux premiers essais sur la question de l'identité juive chez Albert Cohen, ou plus largement dans Écrire la judéité sur l'ensemble de la littérature du XXe siècle. Même si il n'y est pas, à proprement parler, question d'imposture, même si certains des écrivains que j'abordais à cette époque-là, comme Georges Perec, Romain Gary, sont des grands spécialistes de l'imposture et m'ont certainement sensibilisé à ces questions.
Et à la question de l'interprétation et à la question de la loi, j'imagine. Alors j'aurais aimé qu'on ait le temps d'entendre encore Albert Cohen, mais je pense que nous sommes pris par le temps. Jean-Claude Hilberstein, Maxime Decoux, merci vraiment à tous les deux. C'est presque la fin de cette émission, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, excellent après-midi à toutes et à tous.
Qu'est-ce qui vous a motivé pour aborder ces thèmes, y compris celui sur l'identité juive ? auquel je suis par définition sensible.
Oui, parce que votre autobiographie commence par des questions qui effectivement sont très reliées, celles des enfants cachés, etc. C'est une question qui m'a toujours touchée et que j'ai rencontrée chez des écrivains sur lesquels j'avais envie de travailler, donc Albert Cohen en particulier, Georges Perec, que vous aviez aussi évoqué dans Pensée classée, et Romain Gary. Et donc, de fil en aiguille, voilà, c'est comme ça que j'en suis venu à ces questions-là. Et sur Georges Perec, j'ai beaucoup apprécié que vous citiez Pensée classée. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte dans Pensée classée, justement, L'art et la manière de ranger sa bibliothèque, auquel j'ai beaucoup pensé à vous écoutant, puisque Georges Perec, lui, ne sait pas bien où sont les ouvrages dans sa bibliothèque, puisqu'il explique qu'il n'y a aucun véritable classement qui convient. Si vous classez par collection, par édition, par auteur, par siècle, il y a toujours un défaut à un moment ou à un autre, et donc vous ne pouvez pas retrouver vos livres.
Oui, moi j'avais plusieurs classements, donc c'était plus facile, je crois. Certains livres, mes auteurs favoris étaient tous ensemble, enfin j'ai un rayon Romain Gary, et puis parfois c'est Cabinet Cosmopolite de chez Stock. Et à propos de Perec encore, il y a un de ces textes qui m'a fait rire aux éclats, c'est le faux texte scientifique sur la cantatrice.
Oui,
ça, c'est absolument désopilant. Et moi, j'avais eu une plaquette, je ne sais pas où elle est, où il y avait les deux versions, la version française et la version anglaise. Mmh. Alors que dans le volume qu'il a recueilli, on ne trouve que la version française. Alors, je crois que pouvoir dire, aimant beaucoup la langue, enfin, ayant beaucoup pratiqué la langue anglaise, que comme beaucoup de publications aujourd'hui se font en anglais, la version anglaise est encore plus savoureuse,
oui.
Si je puis dire.
Et parce que Perec, à l'époque aussi, il a longtemps travaillé au CNRS, donc oui. Il a pu observer les us et coutumes de l'écriture scientifique, des articles, et les pasticher de façon très intelligente. Des scientifiques qui se sont penchés sur ce texte valident le fait que tous les codes de l'écriture scientifique sont en effet présents, qu'il y a même des choses qui sont vraies à l'intérieur du texte.
Mais alors, pour revenir à ma question initiale, c'est par les écrivains qui se trouvent être juifs que vous vous êtes intéressé à la judéité, ou vous y avez une question préliminaire autour du phénomène juif, si on peut parler comme ça?
Sinon, c'est vraiment à partir des écrivains eux-mêmes.
Gary, Cohen,
Perec, Cohen, qui se sont trouvés être des écrivains... des œuvres qui m'ont tout de suite intéressé, ouais. Fasciné, qui m'ont beaucoup
plu. Moi, j'ai
rencontré
Cohen à Genève. Bernard de Falloy m'avait envoyé à Genève le voir pour lui poser la question de savoir s'il éventuellement il souhaiterait écrire son autobiographie. Il ne voulait pas du tout. Et j'ai encore le souvenir dans un appartement assez exigu avec des classeurs, plein de fiches, beaucoup, beaucoup de fiches. Et ce vieux monsieur, enfin, il devait être jeune par rapport à moi aujourd'hui, en robe de chambre, l'après-midi, m'offrant le thé... Et m'accueillant, alors vraiment comme un juif oriental, si je puis dire.
Oui, Cohen a beaucoup, il pratiquait beaucoup les entretiens en robe de chambre, comme son personnage solaire.
Voilà.
La compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Jean-Michel Bernot pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Je signale que Jean-Claude Zilberstein sera toute la semaine prochaine à 20h au micro d'Émilie Chaudet pour Avenue. Vous trouverez toutes ces actualités ainsi que celles de Maxime Decoux sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction et tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique par Nicolas Martin.